Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, utopistes, atopistes, militants de l'imaginaire et de la décence, bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse de ce jeudi. Je vous avais annoncé une onde curieuse consacrée à la situation des maisons de l'enfance, le phare en Sud-Ardèche. Eh ben non, l'entretien a été repoussé, alors comme nous sommes jeudi, et que normalement ce sont les jeudis de la création, et qu'en plus un peu de douceur et puis de réflexion sur notre condition d'animal de vivant ne peut pas nous faire de mal, je vous propose de la rediffusion d'un très bel entretien avec Olivier Horry, enfin un entretien d'Olivier Horry plutôt, avec l'autrice et néanmoins militante écosocialiste Corinne Morel-Darleux, à l'occasion de son passage en Ardèche il y a quelques mois, où il est question de troubles dans le règne animal et de réalisme magique. Olivier l'a d'ailleurs interrogé avant la sortie du film Le règne animal, mais j'aurais bien aimé avoir son avis sur ce film, tant elle embrasse quelques-unes des mêmes questions sur la part animale en nous, avec poésie, sensualité ou sensorialité. D'ailleurs, elle a l'art de la formule et des titres, et je résiste pas à l'envie de vous en partager quelques-uns qui donnent le goût de sa pensée et de son amour des mots. Plutôt couler en beauté que flotter en grâce, que flotter sans grâce, réflexion sur l'effondrement, je pense que ça c'est mon préféré, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Alors nous irons trouver la beauté ailleurs. Voilà, l'art des titres. Mais ça c'est après le point info. Un peu de légèreté pour commencer. Ce soir à 18h30, dans le cadre de ces escales patrimoine, le cinéma Le Navire projette Bullitt en version originale sous-titrée pour célébrer les 100 ans du studio Warner Bros. Bullitt, c'est un classique de 68 signé Peter Yates avec bien sûr Steve McQueen et Jacqueline Bisset. Et oui, alors bien sûr, c'est Escale Patrimoine, hein, donc on parle, on partage, on analyse éventuellement le cinéma du patrimoine. Et la séance sera donc précédée d'une introduction au film et suivie d'un petit échange libre dans la salle. À noter que Bullitt, si vous ratez cette séance de ce soir à 18h30, sera également à l'affiche lundi et mardi, donc au cinéma Le Navire. Après, vous filez bien sûr au Bourneau pour le concert de Gauvrache, qui oscille entre slam et hip-hop avec la complicité sur scène d'un contrebassiste, d'un pianiste et d'un beatmaker, et ben tout ça, pour son spectacle Apagogie, avec en première partie la gouaille et l'accordéon de Clara Sanchez. C'est donc ce soir au Bourneau à partir de 20h45, et avant, pendant et après, vous profiterez de la buvette, la meilleure, puisqu'elle est tenue par Fréquence 7, bien sûr. La bière n'a pas le même goût, le coca c'est pareil, les jus de fruits n'en parlons pas. Enfin non, y a-t-il du coca? Oui, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce soir, au Bourneau à partir de 20h45. Demain à 15h, mais en plus je fais des signes n'importe comment à Sylvain qui ne peut pas suivre, mais pourtant il suit.
Mais je suis pourtant.
Mais oui, mais tu me suis, mais tu vas même au-delà de moi. Tu sais peut-être avant moi-même ce que je pense, c'est peut-être ça.
D'avoir un truc comme ça.
Alors demain à 15h à l'EHPAD de Burzet, c'est l'occasion d'aller voir l'aboutissement d'un chouette projet. Le geste qui reste, et c'est la chorégraphe Anne-Laure Jeudret, alias Madame Bleu, qui a eu l'idée et l'envie d'offrir de la danse, de la chanson, de la musique, et de saisir et recueillir le geste chorégraphique, poétique et esthétique qui reste. Et pour ce faire, elle s'entourait de deux autres artistes, la photographe Julie Moreau, et le chanteur qu'on connaît bien, et surtout à Burzet, Baptiste Dupré. Et pour voir à quoi ça ressemble, ces pétillantes déambulations qui ont apporté un peu de légèreté aux résidents de l'EHPAD, bien rendez-vous demain à 15h à l'EHPAD de Burzet. Et c'est toujours important et valorisant pour les résidents des maisons de retraite d'accueillir des spectateurs chez eux. Donc n'hésitez pas demain à 15h. Demain, il y a aussi une autre sortie de résidence artistique à 18h30 à la crypte de la Gorse. C'est Ligne d'Horizon qui a accueilli la compagnie Stanislas Midas autour de sa première création qui s'appelle « Quelque part dans les ronces, mémoire d'une sage-femme d'Ardèche » d'après le livre « Les mémoires de Marie-Noëlle Bas, sage-femme d'Ardèche » de Marianne Vivier. Et la sage-femme, donc Marie-Noëlle Bas, a sillonné les routes de l'Ardèche entre 1935 et 1981. Donc elle a énormément d'anecdotes et d'histoires autour de la naissance qui est donnée. Et c'est Thomas Ostermann qui était fasciné par cette lecture, qui a décidé donc de mettre en corps ses mémoires, donc de mémoire d'une sage-femme. Et cette sortie de résidence est donc demain soir à 18h30 à la crypte de la Gorce. On reste dans le thème de la famille, toujours demain à 19h, mais cette fois-ci à Alba-la-Romaine, à la salle Esséric, pour la projection du film « Papa s'en va » de Pauline Horowitz, suivi d'un atelier théâtre mené par Maya Jarville, la compagnie La Ligne. Alors, « Papa s'en va », c'est pas l'histoire d'un divorce, mais c'est l'histoire d'un départ à la retraite du père de la réalisatrice qu'elle a filmé pendant 10 ans, qui était gynécologue obstétricien. C'est une sorte de docu-comédie amère, douce amère, on pourrait dire. C'est gratuit et ça fait partie d'un cycle de 4 projections sur le thème de la famille proposé par Ardèche Images de Lussas. Demain soir aussi, à ne pas manquer, il y a 2 autres événements. Alors vous vous arrangez avec votre don d'ubiquité, mais on peut éventuellement aller à l'un puis à l'autre, et peut-être vous en aurez besoin. Car face à l'insupportable réalité dans les territoires palestiniens, on se demande que faire. Peut-être essayer de comprendre, d'échanger pour ensuite agir. C'est ce que propose l'association France-Palestine Solidarité, avec demain soir, donc vendredi à 20h, la projection du film Yalla Gaza de Roland Nurier, en présence de Pierre Stamboul, qui est porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Alors, le documentaire a été réalisé avant les événements du 7 octobre, c'était en 2022, mais il témoigne déjà la rage de vivre de ces 2 millions d'habitants de Gaza, malgré les bombardements et le blocus total qui a été mis en place en 2007. Et le film tente de comprendre, avec tous les témoignages qui ont été mis en perspective, comment on en est arrivé là. Donc c'est demain à 20h, oui, demain à 20h au navire. Et j'en profite pour vous redire que tous les samedis sur l'Agora d'Aubena à 11h est organisé un rassemblement pour réclamer la fin immédiate des massacres à Gaza et en Cisjordanie. Et puis je profite aussi pour vous dire, si ce sujet vous interpelle, vous intéresse et que vous voulez en comprendre davantage, vous pouvez également réécouter en replay sur le site de Fréquence 7 les 5 émissions d'une heure consacrées au sujet par JB et les profs d'histoire géo de Polémix et La Voix Off qui ont été diffusées pendant tout le mois de décembre et janvier. Mais vous les retrouverez donc sur notre site. Et puis Valou aussi avait dédié une émission de Billets d'Afrique en novembre à la Palestine et au sionisme, donc c'est pareil, c'est à retrouver sur notre site internet. Et enfin, pour vous remettre de tout ça, pour danser, pour partager dans la joie et l'allégresse, tant qu'il en est encore temps, et au rythme de la succulente musique orchestrée par Fréquence 7, je vous rappelle l'événement à ne pas manquer, c'est demain soir, dès 19h, la soirée carnaval à la Bobine, à Aubenas, dans le cadre des Beaux 7. Dress code, évidemment, c'est carnaval, il y a toute la musique que vous aimez, avec des sets de Bonnie and Clyde, de Amanico, notre Nico revenu d'Amazonie, et bien décidé à partager ses vibrations tropicales, et puis aussi les blind tests de Gigi Steph. Et avant tout ça, pour commencer, pour se mettre encore et en mouvement, Ecstatic Dance, c'est à partir de 19h15, de 19h15 à 21h, on danse, et Nico le précise bien, sans substance, sans alcool, on danse d'abord simplement. Et puis ensuite, c'est parti, la soirée et toute la bonne musique. Donc c'est demain à la Bobine. Vous trouverez toutes les infos sur notre Facebook et celui de la Bobine. Eh bien, on continue en musique.
How did I get so calm? How did I get so calm? How did I get so calm and jiggy? How did I get so calm? How did I get so calm? How did I get so calm and brush my shoulders, fam, like it's no biggie? How did I get so calm? How did I get so calm and jiggy? How did I get so calm and brush my shoulders, fam, like it's no biggie? How did I get this drop that gorgeous ting on deck and she's so pretty? How can I tell her that I don't eat kitty? She's gonna think I'm taking a mickey. How did I buy this car for 80 bucks? Now it's only 50 bucks. How did I get these window tints so black and the feds don't give me no ag? How do I flex so wicked and bad? How are these men so bitter and sad? How did I get my arms and pecs all toned up? I ain't got no abs.
No abs.
How did I get so patient? How did I get so flagrant? How did she get complacent? Now she can't find a replacement. No. How did my barber get my fade so clean and my top so curly? How could I be so far from burly? Bad big man from early. How did I get so calm? How did I get so calm? How did I get so calm? How did I get so calm and jiggy? How did I get so calm? How did I get so calm? How did I get so calm and brush my shoulders, fam, like it's no biggie? How did I get so surty? How did I feel like 40 when I was 30? How did I get so bold and shirty? How am I just out here taking the birdies? How did I spend all day on the gram from early, preying and perving? How did I do F1 on the M-way swerving? Could have been curtain, should have been nervous. How did I keep myself composed? I suppose I was on my toes. Get that coke from out of my nose. Any combo, stay away from those. More action, less complaining, naming, shaming, doing my brain in. Pagans praying my flame was fading. How did I pattern and keep maintaining? How did I get so patient? How did I get so amazing? How did I get so brazen? On top wear, just face it. How did I get so firm and sturdy when it's all topsy-turvy? How could I be so far from burly? Bad big man from early. How did I get so calm? How did I get so calm? How did I get so calm? How did I get so calm and jiggy? How did I get so calm? How did I get so calm? How did I get so calm and brush my shoulders, fam, like it's no biggie?
Il y a même un peu de son de jeux vidéo. Ça me fait penser aux événements qui se passent en ce moment à la médiathèque d'Aubenas. C'était Didi Rascal, How Did I Get So Calm, en playlist sur Fréquence 7 dès demain. C'est une nouveauté dénichée par toute l'équipe de la prog de Fréquence 7, issue de l'album Don't Take It Personal, où il parle de sa nouvelle stabilité mentale. Alors là, je ne trouve aucune transition, si ce n'est peut-être la transition écologique, pour vous parler du sujet qui vient. Et on retrouve donc Olivier Horry qui abécède, qui questionne sous forme d'abécédaire l'autrice et militante éco-socialiste Corinne Morel-Darleux à l'occasion de son passage en Ardèche il y a quelques mois.
Corinne Morel-Darleux, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir au micro de Fréquence 7. Merci d'être venu. Vous venez de loin et vous avez beaucoup circulé ces derniers temps. Donc vous êtes aussi fatigué que moi.
Oui, c'est vrai. Mais on va se faire une jolie conversation douce et un peu cotonneuse, comme on disait tout à l'heure.
Exactement. Je crois que c'est ce que nous allons, de toute manière, être un peu contraint de faire. Voilà. Je suis en votre compagnie depuis un petit moment maintenant. J'ai lu vos ouvrages, ce que j'ai pu me procurer. Je crois qu'ils peuvent être à peu près tous là. Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce chez Libertalia 2019.
C'est ça.
Voilà. Le gang des chevreuils rusés. Ça, c'est chez Seuil Jeunesse. C'est très beau, très belle petite histoire pour les enfants, mais les grands s'y retrouvent, je crois. Là où le feu est l'ours, chez Libertalia, un roman un peu écologique, une aventure humaine, ceci, surtout, je crois. Voilà, très, un bon bain, comme ça. Et puis, vous êtes venu présenter à Aubenas votre dernier livre paru chez Dalva. Il s'agit de La Sauvagière.
C'est ça.
L'histoire d'une femme, l'histoire de trois femmes. Un roman troublant qui, que j'ai vécu un peu comme une plongée dans un vécu sensoriel assez profond, assez presque préoccupant, troublant, je dirais. Et ben, c'est peut-être de ce trouble qu'on va essayer de partager avec les auditeurs. Bon, ceux qui ont déjà entendu mes entretiens savent que je procède par abécédaire. L'idée, c'est de faire le dictionnaire de la personne avec qui je bavarde, de parler sa langue, d'une certaine manière. Donc évidemment, je ne prends pas les mêmes mots pour chaque lettre avec tous mes interlocuteurs, ça va de soi. À la lettre A, j'ai choisi un mot qui peut paraître un peu technique, comme ça, un peu philosophique. Atopique, qui, je sais pas, étymologiquement, ça vient du grec, qui n'a pas de lieu. Sans lieu, c'est pas un lieu, c'est hors sol, c'est le non-lieu. Et dans vos œuvres, et en particulier dans La Sauvagière, il y a une géographie latente. On est au monde. Vous avez comme inspirateur Bernard Moitessier, le navigateur. Et voilà, quelqu'un qui circule dans le monde. Vous circulez beaucoup, je trouve. On circule dans beaucoup de lieux dans votre œuvre. Et des lieux qui sont très marqués à chaque fois, d'une manière ou d'une autre. Et soit très négativement, des sales coins, soit au contraire des bons coins. Il y a quelques bons coins chez vous, mais je vais vous laisser développer. Il y a des lieux qui sont à peine des lieux, soit qu'ils sont de passage, soit qu'ils sont provisoirement inhabités. Voilà. Et puis il y a peut-être des utopies. Ben, c'est vrai que vous avez quand même vous portez quand même un engagement écologique, social. On est en droit de penser que l'utopie vous va bien. Alors, à la suite d'Élisée Reclus, le géographe anarchiste, je vous invite à nous inviter, en quelque sorte, à faire une petite balade et à nous extraire de votre vécu récent, ou de vos œuvres, bien entendu, un bon coin, un mauvais lieu, un non-lieu et peut-être une utopie. Ça vous dit quelque chose ?
Ouais, ça me va très bien. Peut-être juste un mot d'abord sur cette notion de non-lieu, ou en tout cas de texte qui soit pas forcément toujours très situé géographiquement parlant. C'est aussi souvent un des attributs du conte, et c'est vrai que on compare souvent mes textes à ce registre du conte, et c'est vrai que j'aime bien le fait d'avoir parfois des récits qui soient pas situés ni géographiquement, ni dans le temps. Et je trouve que ça permet aussi de laisser de la place aux lectrices et aux lecteurs de projeter leurs propres lieux, leurs propres époques, leurs propres souhaits. Et que c'est souvent très intéressant de pas savoir justement si on est dans un présent rêvé, fantasmé, cauchemardé, ou si on est dans des temps futurs, potentiellement post-apocalyptiques, ou au contraire dans des temps archaïques, très anciens. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir justement naviguer entre ces trois types de temps différents. Et donc, pour revenir plus précisément à la question de vous offrir une petite escapade dans des lieux bons ou mauvais que je croise en ce moment, je dirais que le mauvais lieu pour moi en ce moment, comme j'ai été beaucoup en déplacement, en rencontre depuis 4 mois, et que c'était une expérience formidable, hein, c'est pas du tout ça qui est mauvais en soi, mais il y a eu beaucoup de temps, notamment ces derniers jours, qui étaient des temps un peu d'errance en ville, entre deux rendez-vous, entre ce moment où le lieu où vous avez été hébergé pour la nuit vous a fermé ses portes, et le moment où vous rentrez à nouveau dans une autre pièce pour une rencontre publique, s'écoule souvent quelques heures, qui sont des heures en fait, où je me retrouve souvent à zoner dans des grands centres urbains, à une période de l'année où il fait froid, où il pleut, où il neige, à aller de café en café, et en plus avec un niveau de fatigue important qui fait que je n'arrive pas à prendre de décision. c'est des moments où je pourrais en profiter pour aller faire un tour au musée, aller voir un film au cinéma, donner rendez-vous à des gens que je connais dans la ville où je suis.
Et où il est difficile de s'occuper quand on est fatigué comme ça.
Exactement, et donc voilà, mon mauvais lieu en ce moment, ce serait voilà, ce moment, ce lieu d'errance et d'indécision dans des espaces citadins glacés et qui sont aussi des lieux de sympathie au sens vraiment le plus fort du terme. Avec l'ensemble des personnes qui justement n'ont pas de chez elles et qui pour qui cette errance elle est permanente. Ouais. Et j'avoue que voilà, il y a toujours un moment de projection pour moi très très fort, très douloureux et très empathique dans ces moments-là.
Ouais, je comprends très bien, et d'autant plus que pour avoir été longtemps sans voiture, sans permis, j'ai fait beaucoup de bus, beaucoup de trains, et me suis retrouvé dans les quartiers de la gare, souvent un peu anonyme, et puis un petit peu avec des amérantes, effectivement.
Voilà. Exactement. Donc voilà, ça c'était peut-être pour le premier lieu. Et puis ensuite, un lieu qui fait du bien, c'est un peu la continuité logique. Aujourd'hui, c'est vraiment l'espace que j'habite, l'espace où je vis, qui, encore plus dans ces périodes de déplacement intense, offre vraiment l'image d'un foyer et d'un lieu où on est heureux de retourner, qui est en plus, voilà, j'ai la chance inouïe d'habiter dans un petit village au pied du Vercors, dans la Drôme. Je vis entourée de forêts, de montagnes, de vignes, de lavandes. Et donc, dans cet espace de montagne, qui est un espace qui n'est pas la haute montagne, qui est la montagne à Biche, qui est une montagne qui est encore cultivée. Et voilà, qui est vraiment pour moi aujourd'hui l'image du paradis sur Terre, que l'on retrouve d'ailleurs en grande partie dans mon roman La Sauvagière, qui est, comme la plupart de mes textes, naturellement très inspiré aussi ma propre expérience et des lieux que j'aime.
Et le Vercors, d'ailleurs, est en même temps, j'en ai un peu l'expérience pour avoir commencé à travailler à Grenoble, à faire beaucoup d'allées et venues dans la Drôme et ici. C'est aussi une terre de refuge et de résistance, traditionnellement, le Vercors. Et donc, on comprend qu'il puisse être agréable d'y trouver refuge, justement, et dans un cadre qui plus est, bon, bucolique, rustique, etc. Ouais.
Oui, c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est vraiment une mutation totale de ma vie d'habiter dans ce village. Ça fait 15 ans, moi, que je vis dans la vallée de la Drôme. Mais j'ai passé 11 ans en ville, même si c'était une petite ville, à Die. Et je crois que le changement de Die à ce village est en réalité aussi transformateur que le déménagement de Paris à Die il y a 15 ans.
Oui, d'accord.
Alors que la distance est beaucoup... La distance est bien moindre, mais finalement le changement de vie est presque aussi bouleversant. Même à quelques kilomètres de distance, tant on rentre dans un univers qui est encore totalement différent et avec un rythme de vie totalement différent, des manières de vivre au quotidien qui n'ont rien à voir en fait avec celles qu'on peut avoir même dans une ville de taille réduite comme
dit. Oui, je suis très surpris parce que je vous entendais parler et comme je savais que vous étiez originaire de Paris, que vous y aviez travaillé, enfin etc. Je me dis, ah, une petite ville, mais de quoi s'agit-il? Mais effectivement, je comprends mieux si effectivement il y a un contraste équivalent, voire plus grand, entre Die et le Vercors qu'entre Die et Paris. Ça s'explique.
En tout cas, dans la manière dont je le ressens, moi. Et puis peut-être pour l'utopie, ouais. J'aimerais citer un lieu de roman, d'un de mes romans. Parce que pour le coup, l'utopie aujourd'hui, c'est quand même beaucoup dans la littérature que je la trouve, à la fois dans celle que je lis et dans celle que j'écris. Et pour moi, l'oasis du roman Là où le feu est l'ours, qui arrive dans la deuxième partie du roman, est vraiment le lieu de l'utopie. C'est-à-dire que c'est un lieu que j'ai eu envie de peupler de toutes mes envies du moment. Alors d'abord, j'étais en train d'écrire ce roman, c'était en plein hiver. Le lieu où j'écris est un lieu qui n'est pas très bien chauffé l'hiver. Donc en fait, je caillais en écrivant là où le feu est l'ours. Et donc la première chose, c'est que j'avais très envie de végétation luxuriante et d'ambiance tropicale. Et c'est vraiment de ce besoin qu'est née l'Oasis. Et au-delà de ça, il y a vraiment la dimension d'utopie politique, puisque j'y ai placé beaucoup d'inspiration sur le rapport au vivant, sur le rapport à la démocratie, sur les femmes du Rojava, du nord-est syrien. Et donc, voilà, j'ai vraiment essayé d'en faire un lieu de l'utopie, un lieu où il n'y a pas de technologie, un lieu où il n'y a pas de numérique, et où il y a un rapport au monde beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus féministe.
Oui. Je vous ai vu beaucoup d'ailleurs, en lisant, que je me trompe pas, en lisant Là où le feu est l'ours, décrivant l'Oasis, je vous imaginais bien... comme Foxy, l'héroïne de l'histoire pour enfants que vous avez écrite, j'ai du mal avec la mémoire, le gang des chevreuils rusés, ça est jeunesse là. Je vous imaginais bien organiser vos petites affaires exactement comme Foxy organise sa cabane, en apportant juste ce qu'on a envie d'avoir, etc. Et je trouve ça... très bienfaisant pour le lecteur en même temps, parce que bon, si on partage un petit peu vos goûts, du coup, on se retrouve dans un univers qui convient. C'est tout à fait.
Il faut quand même déjà être adepte d'une certaine forme d'esthétique du dénuement, effectivement, pour s'y retrouver. Mais c'est vrai que ce soit dans le gang des chevreuils rusés avec l'histoire de Foxy, ou dans Là où le feu est l'ours, ou dans La Sauvagière, naturellement, j'y place. Bien entendu, beaucoup de mes propres envies et de mes propres souhaits.
Ce que j'ai trouvé aussi agréable, c'est cette sorte de réalisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans une utopie rose-bonbon, enfin, etc. C'est-à-dire les choses de la nature ont aussi leur versant dur, éventuellement, impitoyable. La mort n'est pas évacuée, la souffrance non plus. Et ça contribue à donner quand même un certain réalisme à la description. Et du coup, comme elle gagne en réalisme, on s'y plonge d'autant plus volontiers. On n'a pas l'impression d'être sous psychotrope, enfin spécialement, enfin un petit peu, mais bon, pas trop. Voilà. À la lettre B, j'ai failli prendre bibliothèque, parce que il y a une chose qui m'a frappé dans vos ouvrages, c'est à quel point sont importants pour vous un certain nombre de livres, dont des livres dont les auteurs sont, alors il faut l'entendre vraiment en un sens très très libre, pour ne pas dire libertaire, mais sont des maîtres, mais pas au sens de où ils dirigeraient à la baguette, des maîtres au sens où on se réfère à eux, voilà. Donc il y a parmi ces maîtres, hein, je sais pas, je crois qu'il y a un petit peu Joseph Kessel. Enfin, il y a les trois. Je crois qu'il y a les trois livres. Je crois avoir deviné les trois livres de Là où le feu est l'ours. Je crois qu'il y a Les Cavaliers de Kessel.
Absolument.
Suzanne et le Pacifique de Jean Giraudoux.
Oui.
Voilà. Et puis le troisième, je l'avais trouvé.
Le troisième, c'est L'appel de la forêt de Jack London.
De Jack London, je l'avais. Mais je ne parle pas de bibliothèque, parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé plus encore, et ça serait B comme bête ou bestiaire. Je me suis amusé en lisant vos ouvrages. J'ai relevé plus d'une centaine de références à des animaux, à des bêtes. Alors il y a des bêtes, ça va du domestique au sauvage. Du local à l'exotique, hein, les dic-dic, etc., les petites antilopes, les singes hurleurs, etc. Ça va aussi du zoologique au symbolique. Il y a des animaux qui existent très très bien et qui nous sont très très proches, et puis des animaux, il y a le dragon, il y a la sphinx, plus ou moins, la chimère, il y a des animaux que ça peut entre les deux. La carpe Koi, par exemple, c'est la carpe de brocard pour les Chinois, Jinli, qui est un petit peu à mi-chemin entre l'animal réel et l'animal de légende, comme ça. Et ce qui m'a frappé, C'est à quel point... D'ailleurs, on aurait pu faire la même liste avec les plantes. Hein. Il y a aussi une botanique, enfin, très complète, avec les plantes qu'on mange, qui nous soignent, qui nous font du bien ou pas. Mais les animaux, j'ai trouvé que vous vous en serviez un peu pour exprimer les émois et les sentiments humains. Est-ce que il y a partie liée entre l'humain et l'animal, comme ça ? Aussi fortement que ça ?
Ce qui est certain, c'est que, en tout cas, notamment dans la sauvagière, j'avais vraiment envie, précisément, de venir questionner, entre autres, cette question de l'animal en nous, et cette question de la place de l'être humain dans le règne animal, qui est une question qui est extrêmement d'actualité, que ce soit avec l'extinction de la biodiversité ou de manière plus générale la crise environnementale majeure dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, dont une des sources repose justement dans le fait que l'être humain se soit senti maître, alors là pour le coup au sens le moins libertaire du terme, de la nature, possesseur de la nature, et donc tout autorisé à aller y puiser, détruire tout ce qui lui plaît. Donc j'avais envie de venir questionner ça, parce que on trouve beaucoup d'ouvrages de penseurs sur ce sujet-là, d'anthropologues, de sociologues, d'éthologues, dans des essais extrêmement intéressants par ailleurs. Mais je trouve que c'est un sujet qui n'a pas encore été beaucoup traité de manière romanesque et fictionnelle. Et donc voilà, j'avais envie avec La Sauvagière de venir interroger ça. Et c'est donc la raison pour laquelle la narratrice est vraiment dans un double mouvement par rapport à cette question de l'animalité, voire de la bestialité, à la fois de prendre conscience de sa propre animalité, de cette dimension animale que nous avons toutes et tous en nous, et puis d'aller aussi à la rencontre des animaux, ceux qui peuplent la forêt, ceux qui peuplent le sauvage, qui vont venir vers elle, et elle va aussi aller vers eux en s'immisçant de plus en plus profondément dans la forêt et dans la montagne. Et donc c'est la raison pour laquelle effectivement les animaux sont extrêmement présents dans La Sauvagière, tout comme il l'était déjà dans les textes précédents, dans Là où le feu est l'ours, dans Le gang des chevreuils rusés. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je n'envisage ni ma vie, ni mon écriture sans cette présence animale.
Oui, j'entends bien. Et c'est d'autant plus, je parlais de trouble tout à l'heure, ça introduit d'autant plus le trouble qu'on sent que... Il y a vous instaurez une sorte de flou entre les espèces et les gens, et on peut très bien passer d'une espèce à l'autre, c'est un petit peu indécis. Le jeune ours dans Là où le feu est l'ours appartient à l'oasis un peu au même titre que les autres, etc. Et on peut se totémiser, c'est-à-dire on peut se rendre compte qu'on a un animal dont on est particulièrement proche, et physiquement, et psychologiquement. Ça m'amène tout doucement à ma dernière lettre. On va pas avoir le temps de causer beaucoup plus longtemps, malheureusement. Nous avons un maître ici, absolu. Le temps. Le temps. C'est comme corps. Ça a participé aussi de mon trouble. On sent... Bon, il y a une vraie sensualité dans vos ouvrages. C'est indéniable, c'est bien agréable, d'ailleurs. Mais il y a aussi... de la douleur, on sent le corps humain un peu inadapté, au contraire du corps animal qui est, lui, au contraire, parfaitement adapté. On grimpe dans les arbres, on s'enfuit sous terre, etc. Mais l'humain, lui, il se prend le macadam et puis boum, c'est un peu le cas de votre héroïne dans La Sauvagière.
C'est vrai qu'il y a cette réflexion qu'elle se fait, la narratrice, quand à un moment donné, elle part marcher dans la neige, en forêt, et de se rendre compte à quel point, alors en plus elle est chaussée de raquettes, donc elle laisse des empreintes absolument énormes dans la neige,
oui.
Et elle voit à côté de ces empreintes énormes, celles des animaux de la forêt qui sont toutes légères, très, très fines,
beau,
très élégantes, et donc voilà, elle se fait cette réflexion que l'être humain est...
balourd.
Est parfois très balourd, effectivement, et très inadapté à certains milieux, et notamment aux milieux naturels et sauvages. Et c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée pour l'ensemble de ses romans, des travaux des anthropologues, de gens comme Philippe Descola, Alessandro Pignocchi, Nastassia Martin, Baptiste Morisot également, sur le rapport au vivant, mais aussi sur l'animisme, le totémisme, des manières alternatives d'envisager notre rapport au monde.
Chamanisme éventuellement, oui.
Voilà. Et donc, voilà, j'avais envie de venir saupoudrer un univers très réaliste, d'une pincée peut-être de réalisme magique, en m'inspirant justement de ces autres cultures, de ces autres ontologies, comme on dit en anthropologie, pour donner cette touche de merveilleux, mais d'inquiétant aussi parfois, parce que effectivement, et merci de le souligner, je parlais au début de cet entretien, de cette conversation de conte, mais on n'est pas dans du conte de fées. On est dans du conte avec sa dimension d'émerveillement, mais aussi avec sa dimension de trouble et d'inquiétante étrangeté, et ça me va bien que ce soit comme ça.
Ein bisschen unheimlich. Merci beaucoup pour le mot réalisme magique. Il me manquait, il m'était pas venu. Je suis lecteur de Georges Amado et effectivement, ça me remet les idées en place. Merci beaucoup. Malheureusement, je l'ai dit, le temps est maître, les horloges sont dominatrice par ici. Hein. Alors merci Corinne Morel d'Arleux d'être venue nous entretenir de vos œuvres. Et bien, La Sauvagière à lire chez Dalva. Ciao, ciao.
Merci Olivier, donc à retrouver les livres de Corinne Morel d'Arleux. Et puis après La Sauvagière, il y en a un autre qui est paru, c'est Alors nous irons trouver la beauté ailleurs. Et je me demande quel est l'animal totem de Olivier Horry. Prochaine question à lui poser.
Moi, je sais.
Ah, tu peux divulguer ça sur notre antenne?
Ai-je le droit?
Vas-y.
C'est la poule.
Et pourquoi?
Ah, faudra lui demander.
D'accord. Le mystère s'épaissit. Merci Sylvain. Restez à l'écoute de Fréquence 7 pour le meilleur de la musique, toujours. Non mais ça c'est un slogan, ça je crois, hein, d'une autre radio. Ouais, qui absolument. C'est pas vrai en fait, c'est de la publicité mensongère de sa part à elle. Mais nous c'est vrai. Le meilleur de la musique sur Fréquence 7. À 15h, le Telex, ce sont vos messages, vos annonces. Et attention, vous parlez directement aux auditrices et aux auditeurs. Vous laissez donc vos messages au 04 75 93 30 25. À 17h, c'est la rediffusion de cette onde curieuse. À 19h, éclectrique. Et à 20h, la playlist de mon pote. Merci beaucoup Sylvain pour la réalisation de cette émission. Et nous, on se retrouve demain pour le Cinémascope et lundi pour une prochaine onde curieuse. Le sujet, les mystères de la vie, je ne sais pas encore. Ciao, bonne journée.